Tiens, truc là. Tu as vu le iPad qui est sorti la dernière fois? C'est le dossier de la semaine.
C'est le dossier de la semaine, mes amis.
Ah, ça c'est moderne.
Promis, c'est prévu, hein, mais c'est pas encore là le jingle pour toi.
Oui, c'est ce que je me disais. Moi, je suis encore le dossier de la semaine. Bon, ben, ça me va. Moi,
ça viendra, ça viendra.
Au final, ça, vu le temps que ça va durer. Donc, pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire cette chronique. Oui, quoi?
Vu le temps que ça va prendre. Ah, d'accord. Donc, c'est déjà qu'on est parti pour longtemps.
Ah, bah oui. C'est la chronique tech du professeur Phil.
Ouais, essaye de pas trop non plus.
Non.
Laissez-le commencer déjà.
Pour la petite histoire, faut savoir qu'en fait, j'ai écrit cette chronique il y a 2 semaines, et le 26 octobre dernier, donc, tombe un article sur Next Impact sur le sujet, donc j'en ai fait mon intro, hein, comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. Comme vous ne l'avez probablement pas vu passer, des sénateurs exigent le rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques, qui devait être remis en mars dernier, et qui n'a toujours pas été remis après 7 mois de retard.
On se demande pourquoi.
De même, cet été, la loi sur la croissance verte pénalise l'obsolescence programmée de 2 ans de prison, 300 000 euros d'amende ou 5% du chiffre d'affaires passé 300 000 euros de, je cite, bénéfices liés au manquement.
Est-ce que je peux déjà te poser une question là-dessus ou pas?
Mais ces lois sont, à mon avis, éclairées non seulement parfaitement inapplicable, mais aussi irréaliste. Tout n'est pas aussi simple que dans un reportage d'M6. Souvent, dans ces reportages sur l'obsolescence programmée, on ressort le bon vieux coup de la machine à laver de mamie qui tourne depuis 30 ans et on accuse les concepteurs des objets modernes nous entourant de mettre des composants à durée de vie particulièrement courte, en général le temps de la garantie plus une petite marge. Or, étant moi-même dans un bureau d'études et ayant été formé à la conception mécanique, je peux vous assurer que cela est en partie vrai, mais que les raisons ne sont pas forcément celles que vous soupçonnez. Et surtout qu'il est difficile de prouver que cela a été fait dans le but, je recite, de réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement, ce que stipule la loi de cet été. J'annonce de suite que je ne parlerai pas des smartphones et autres trucs électroniques parce que le fait de sortir un nouveau produit, meilleur ou non, ne rend pas forcément le précédent obsolète. Il s'agit ici souvent d'un simple effet de mode, une perversion de nos instincts à des fins mercantiles, et plus particulièrement de conneries humaines et donc hors du cadre de cette chronique.
C'est surtout la marque du marketing.
Standard qui évolue ou disparaît, par exemple le HD-DVD, le Laserdisc, le Betamax, dont les lecteurs peuvent encore fonctionner, hein, vu comment ils ont été pas beaucoup utilisés, mais sont obsolètes car ils ne permettent plus l'usage pour lequel ils étaient destinés. Mais ça n'est pas non plus dans le cadre de cette chronique. Mais quel est donc le cadre de cette chronique, professeur Phil, me demanderez-vous à raison. Nous allons tenter de répondre à la question, les concepteurs sont-ils tous de fiefés salopards qu'ils mettent des bombes à retardement dans nos appareils?
Alors oui, mais
il me paraît judicieux de savoir ce que signifie concrètement que concevoir. Alors concevoir un objet ou autre chose, c'est avant tout répondre à un besoin. Cela ne veut pas dire forcément que vous devez passer un diplôme quelconque, utiliser un logiciel 3D, que vous ferez des plans, des coupes, des vues de détail avec des cotes et des tolérances, non. Tous les jours, plusieurs fois par jour, vous concevez sans forcément le réaliser. Par exemple, quand vous faites un repas, vous concevez un plat en fonction de ce qui existe dans le frigo, dans le placard ou même à l'épicerie du coin, du budget que vous voulez y mettre et des limites de votre projet que vous décidez plus ou moins arbitrairement. Vous n'allez pas commencer à faire un tagine pour 120 personnes à 20h quand vous vivez seul et vous devez vous lever à 5h du matin le lendemain. C'est trop en quantité, c'est trop long ou alors vous l'avez démarré trop tard, vous n'avez pas forcément les ingrédients et les grands magasins de l'épicerie du coin seront fermés.
C'est pour ça qu'il y a les épiceries 7 sur 7.
Et franchement, vous n'aimez pas le sucré salé, et en plus c'est la fin du mois, donc vous êtes déjà pas mal à découvert. Du coup, vous vous faites des pâtes pour la 3e fois cette semaine. Essayons de décortiquer un petit peu cette situation que je viens de vous citer. Les limites du réalisable sont atteintes avec le manque d'ingrédients à disposition, mais on voit qu'il y a d'autres facteurs limitants. Des limites a priori arbitraires que vous imposez au projet. Si vous avez les ingrédients, vous pourriez en théorie le faire, mais vous ne l'auriez tout de même pas fait. En réalité, ces limites ont un sens dans le cadre de ces projets. Vous ne l'imposez pas au hasard. Elles sont directement liées à l'environnement entourant le projet sans être dans le projet lui-même. Vos goûts, un objectif de temps, de quantité ou de prix. Dans le milieu dans lequel je travaille, on ne regarde pas trop à la dépense, mais il y a toujours des compromis dus aux lois de la physique. Si une pièce est grosse, elle est plus résistante, mais elle est plus encombrante, donc il faudra trouver un bon équilibre entre taille et résistance mécanique, par exemple.
Oui, puis elle peut être plus chère à produire ou des choses comme ça. Elle peut être plus chère à produire ou des choses comme ça aussi, ça peut jouer.
Oui, non, mais j'ai dit que le coût n'était pas vraiment un problème. Alors, faut savoir qu'en fait, j'ai eu mon ampli qui est tombé en panne là. Donc c'est ça le truc que j'ai rallumé. C'est pour ça que.
C'est pour ça que nous entendais plus
si
quand on parlait
tout à l'heure.
D'accord.
Ce qui était peut-être pas plus mal comme ça. J'étais tranquille en train de faire ma chronique sans me faire emmerder, mais. Mais
bon, ça faisait bizarre parce qu'on te parlait et tu nous répondais pas. Ouais, c'est dit. En fait, il nous a passé un truc enregistré en fait.
Mais oui, c'est ça.
Non. J'aurais pu, d'ailleurs c'est pas con, la prochaine fois je ferai ça. comme ça je me ferai pas interrompre parce que du coup je sais plus où j'en suis, on va y passer 3 heures et je vais encore me faire accuser. Alors que c'est de votre faute. Donc oui, effectivement, il pourrait y avoir les coûts, mais le coût d'une pièce, si elle fait 5,5 mm au lieu de 5 mm, vu les quantités qu'on fait et le type de pièce que je fais, c'est pas un problème, si tu veux. D'accord. Donc je pourrais la faire de 5,5, sauf que le problème c'est qu'elle va être plus encombrante, et que encombrante c'est pas ce que le client souhaite à la fin, donc du coup on ne le fait pas. Mmh. Donc je précise ici que nous allons nous concentrer ici sur le prix, donc, mais c'est pas le seul facteur, il y en a d'autres. Alors on va passer à une petite session travaux dirigés, avec un petit exercice mental, un truc simple. Donc si vous prenez des notes c'est mieux, mais au minimum si vous vous concentrez ça devrait pouvoir passer. Alors, écoutez bien, des clients souhaitent pouvoir soulever une charge de 100 kg. Vous devez concevoir un pack contenant un câble et une poulie, et vous n'êtes ni fabricant de câble ni de poulie. En consultant le catalogue des fournisseurs, vous trouvez deux câbles homologués 100 kg, un câble normal à 1€ et un câble à revêtement anti-usure à 2€. En consultant les autres catalogues de fournisseurs, vous trouvez deux poulies homologuées 100 kg, une poulie normale à 1€ et une poulie à galets anti-usure de câble à 2€. Cela fait 4 combinaisons, hein, forcément, si vous avez bien suivi, allant de 2€ à 4€. Le département marketing a fait une étude de marché, étudié aussi les prix de la concurrence, et après avoir déduit les coûts prévus pour, c'est-à-dire 10€ hein, la concurrence à peu près, déduit les coûts prévus pour l'emballage, les marges distributeurs, la livraison, votre budget conseillé est de 3€. Alors du coup, quel choix faites-vous ? On va commencer par Benzen. Benzen, quel choix fais-tu ?
Je dirais le câble, c'est peut-être plus facile de le changer que la poulie, donc je mettrais le câble simple et la poulie à 2.
D'accord, donc en gros t'as un kit à 3€ quoi, pour c'est faire ça. Simple. Caldine, je sais plus.
Bah je ferais pareil je pense, c'est un peu plus évident.
Ok, Oasis.
Bizarrement j'aurais l'inverse justement, que si la poulie elle peut préserver le câble.
Même bah si c'est pour ça qu'on prend la poulie à 2€.
Non. Oui, j'ai inversé. Je voulais dire, la poulie qui protège le câble et le câble classique.
C'est moche, la drogue Oasis, quand même, tu sais, ça.
Pardon, ouais, mais en gros, la stratégie, je pense, c'est de se conformer au prix du marché. Après, tu peux avoir l'autre stratégie qui dit, on va faire dans le low cost, on va en vendre en masse, on va les vendre pas cher, donc les gens s'en foutront, et tu peux avoir la troisième stratégie qui
est du vends ça, tu vends son truc.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Il y en a pas un qui veut prendre la stratégie de je nique tout le monde, là, en baissant le prix.
Moi, je suis en radar, si je peux le faire encore moins cher, même je contacte le constructeur, je lui dis, écoute, je t'en achète X millions, tu me baisses le prix à 1€ chacun, et je m'en fous même si ça pète, puisque du coup, je t'en rachèterai nous à 1 million d'ici 1 an ou 2, donc.
C'est déjà le prix d'un euro.
Seven?
Ah bah moi bah pour le coup bah je vais faire le riche hein, et puis je vais dire allez hop j'aime bien mes clients, je vais faire la qualité, tout à 2€.
Donc voilà, très ça boîte cool au bout de c'est bien parce semaines. Que
j'ai du coup un peu tout.
Bah justement c'était fait exprès.
Vous êtes adorable. Donc 3€.
Ça on le sait.
Votre produit vendu 10€ comme les autres a 2-3 retours SAV. Bon en même temps vous en avez vendu 1000 exemplaires. Pourquoi ? Parce que les clients ont acheté massivement le kit coûtant 2€ à fabriquer ou un kit coûtant 3€ d'une autre marque présente sur ce créneau avant vous et bénéficiant de retours d'expérience d'utilisateurs qui l'ont conseillé donc à votre acheteur potentiel. Il vous est donc passé sous le nez. C'était Seven qui était parti pour la solution à 4€.
Ouais.
Vous décidez de créer la Rolls des kits câble poulie. Vous souhaitez n'avoir aucun retour SAV, une durée de vie illimitée. Quitte à être plus cher que la concurrence, le département marketing a dû augmenter encore plus le prix pour payer des campagnes marketing visant à améliorer l'image de marque et aussi compenser le faible nombre d'achats par des marges plus conséquentes.
Ouais, mais c'est du Made in France, vendu... donc cher.
Voilà, votre produit Apple, est ainsi vendu 100€ avec une garantie à vie. Votre avenir est quand même incertain. Pour certains, cette stratégie à payer, ils sont cités en exemple. J'ai dit donc la Rolls des kits câble poulie, c'est donc là la preuve que c'est un gage de qualité. Voilà. Mais allez donc inspirer une image d'expérience de luxe avec une poulie et un câble. Franchement, ça fait pas rêver, donc bon courage. Et enfin, la grosse radasse. 2€. Votre kit, vendu donc 6,50€ en dessous du prix du marché qui était 10€, est un succès commercial. Vous écrasez la concurrence en majorité plus chère, même si vous avez 1% de retour SAV d'utilisateurs trop réguliers de votre kit, qui ont un souci de câble bizarrement usé prématurément. Vous leur remplacez, ce qui vous coûte pas très cher au regard des volumes écoulés et surtout du prix initial du câble, et ils ne sont pas mécontents au final. Et s'ils rachèteront pas forcément un produit de votre marque, ils ne se plaignent pas ouvertement de la mauvaise qualité du produit. Le problème, 2 mois
plus tard, ça dépend du SAV, ça encore.
C'est ça. Deux mois plus tard, un kit tout fait apparaît au catalogue d'un fournisseur asiatico-est-européen. Ouais, je fais dans le cliché à mort. La qualité est très médiocre. Le câble est indémontable de la poulie. Me demandez pas comment ça marche. Donc, quand un des deux composants s'use, les deux doivent être remplacés. Et ça sera clairement le cas, vu comment c'est de la merde. Et le kit est distribué à 50 centimes d'euros, donc vendable sous la barre des 5 euros. Il devient la nouvelle référence de prix pour les consommateurs. Et votre kit n'est plus le plus vendu. Voilà. Donc, appliquons maintenant ceci au monde de l'électroménager. Les clients achètent des appareils peu chers en priorité, ce qui fait que les coûts sont rognés partout où c'est possible, notamment la durée de vie moyenne des composants. Et comme la précision de la durée de vie augmente avec le temps qui passe, l'évolution technologique, le moment de la panne tend de plus en plus vers J+1 après la fin de la garantie. Car tout fonctionnement après cette période peut être considéré comme non nécessaire, parce que l'appareil est donc non optimisé. Du point de vue de l'acheteur, c'est un prix qui aurait pu être plus bas. Du point de vue de l'industriel, c'est une marge non perçue ou un tarif moins compétitif. Donc oui, on pourrait donner à un certain nombre d'appareils une durée de vie quasiment illimitée en surdimensionnant absolument tout. Mais ce serait plus encombrant et ou moins performant, ça peut arriver aussi, et probablement plus cher. Et bon, certainement, vous n'en voudriez pas.
Après, si, parce que ça existe sur certains créneaux, ça existe des véhicules ou des ordi, des remarques qui sont réputées pour leur fiabilité, quitte à ce que tu mettes 200 euros de plus dans ton composant. Tu parles peut-être pas d'un câble poulie pour les 200 euros, mais voilà, t'as compris.
Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était une règle absolue, j'ai dit que vous n'en voudriez probablement pas. Présenté comme ça, on pourrait croire que je rejette la faute uniquement sur les acheteurs qui, par leur attrait vers le bon marché, font entrer l'industrie dans un cercle vicieux où il y a d'un côté des produits de plus en plus bon marché, devenus presque jetables, et de l'autre des produits haut de gamme faits pour durer. Mais ce n'est pas aussi caricatural. Pour commencer, il y a des produits bon marché volontairement simples qui durent plus longtemps que des produits hyper avancés et complexes, plus sujets à des pannes. L'exemple parfait étant une machine à laver électromécanique où c'est simplement un gros bouton type minuteur de cuisine qui active les contacts en tournant, ce qui est quand même beaucoup plus fiable et moins sujet à des pannes que toute une carte électronique qui gérerait différents milliers de programmes.
Tournant sous Android ou en truc propriétaire.
Voilà, voir un Windows CE, ça pourrait arriver. Hein. S'il y a un petit écran et tout, c'est pas impossible.
Bref. Ouais, peut-être pas sur une machine, quand même.
J'ai un aspirateur qui tourne sous Windows CE, monsieur.
Non. C'est une blague ou quoi?
C'est pas une blague, c'est le
aspirateur. Ah oui, c'est un truc, c'est un truc automatique.
Il y a une webcam sur le.
Ben voilà.
Je veux dire, tu dis
aspirateur, commande-moi une pizza, et puis 5 minutes après, t'as Domino's pizza à la porte aussi. C'est normal, quoi.
Quoi? J'ai pas compris, pas grave.
Non, c'était pour dire que ton aspirateur était trop moderne, quoi. Windows CE sur l'aspirateur.
Ah oui, d'accord. Oui, non, mais c'est. Pardon, mon aspirateur automatique, oui, c'est parce que bon.
Et s'il faut que j'explique mes blagues, c'est qu'il y a un problème.
Monsieur, t'as fait marre.
C'est qu'elles sont pas drôles.
Bref, c'est pas grave.
Ça marche aussi.
Donc j'en étais où? Oui, donc. Et les industriels ont bien évidemment aussi leur part de responsabilité dans le lancement même de cette guerre des prix. Et bien entendu, il n'y a pas de fumée sans feu. Il existe au moins un cas avéré. On sait qu'il a existé. Dans les années 20, 1920 je précise, pour ceux qui réécouteraient en 2025. Donc on sait qu'il y a eu une entente entre les fabricants d'ampoules pour limiter leur durée de vie à 1000 heures alors que le double était largement atteignable. Et pourquoi? Simplement pour en vendre plus. Du coup, au final, est-ce vrai que les produits durent de moins en moins longtemps? Ben, en un sens, oui, probablement, mais c'est souvent parce qu'ils coûtent de moins en moins cher. Est-ce que du coup, un prix élevé est synonyme de durée de vie longue? Dois-je prendre de la marque? Bah pas forcément, des fois on paye juste pour la marque et au pire même les frais de remplacement SAV. Donc je suis d'accord que les pistes sont brouillées et qu'il n'est pas simple de s'y retrouver. Ah et puis pour vous achever, sachez aussi que les questions de design impactent aussi la durée de vie et surtout la réparabilité. Par exemple, l'exemple parfait c'est le MacBook.
Et surtout le coût.
Aussi. Mais là on parlait d'obsolescence programmée, donc là c'est surtout dans le cadre de l'obsolescence programmée, le design a un impact. Prenons le MacBook par exemple. Toujours plus fin, dont les composants sont collés, hein, et la batterie inamovible sans démonter l'appareil. Alors, quand je dis les composants sont collés, je parle par exemple de l'écran, par rapport au reste du clapet, hein, de.
Oui, au lieu que ce soit des petites vis comme sur un PC normal, c'est de la colle qui colle la lumière.
Même des clips, hein, avant il y avait des trucs qui se clipsaient, donc c'était chiant à déclipser, on pouvait les péter.
Les clips, c'est comme la colle, hein, dès que tu les enlèves, les trois quarts qui ont disparu, hein.
Il y a les trois quarts qui disparaissent, mais ça tient encore vaguement avec un quart.
Ouais.
Pour l'avoir fait moi-même. Un quart et du scotch. Bref. mais les smartphones, quelle que soit la marque, et bizarrement Apple n'est pas le pire, qui sont donc eux aussi de plus en plus fins et qui ont de plus en plus des pièces qui sont collées ensemble et où la réparation est soit beaucoup plus chère, soit beaucoup plus difficile. J'ai le cas du LG G3 de ma copine qui est tombé par terre et où l'écran, enfin la vitre, tout ça, etc. sont collés ensemble avec l'ensemble du corps. Et donc il faudrait un sèche-cheveux ou un, enfin quelque chose qui souffle de l'air chaud pour pouvoir abîmer la colle. Et pouvoir décoller l'ensemble et après être pas sûr que ça se recolle, bref, c'est la merde. Dans tous les cas, à notre échelle d'individu, il existe déjà des règles simples que l'on peut appliquer. Déjà,
changer la copine.
Non, pas faire tomber son téléphone dans la
téléphone, mais
si tu veux sortir un truc con, tu peux sortir ça. Là, ça marche, parce que moi, je vais pas changer la copine juste parce qu'elle fait tomber son téléphone. Juste qu'elle arrête de le faire tomber.
Fais gaffe, il est pas loin de chez toi, il va la récupérer.
Bref. Donc renseignez-vous un peu sur comment les produits sont faits. Combien coûtera la réparation de l'écran de mon smartphone, par exemple? 50€ comme sur un iPhone 4S en l'occurrence, ou 300€ comme sur le LG G3. Faites des devis en ligne, il y a plein de trucs qui permettent de le faire, ou sinon allez voir des sites comme iFixit par exemple, qui est un très bon site.
Un très bon site.
Je suis obligé de couper, mais pour les biens de ceux qui nous regardent sur YouTube, tu m'as jamais dit de changer l'image et pourtant j'ai pris toutes les images que tu m'as données. Je suppose qu'on a déjà.
Ah mais fallait que je te prévienne quand changer l'image. Mais vu que j'ai pas, tu prends ça puis tu changes quand ça te va.
Bah, vu que j'ai pas le texte, oui, t'es obligé de me prévenir quand tu changes le. Il est mignon.
Ah, besoin, c'était quand tu le sens. Mais c'est pas grave.
Ah bah on va les faire défiler au fur et à mesure que tu continues alors.
Voilà, très bien. Donc sinon, donc iFixit. Arrêtez d'acheter aussi des merdes asiatiques sur eBay ou Amazon. C'est conçu, assemblé avec le cul, produit dans des conditions atroces, et puis vous savez pertinemment que cet accessoire à 1€ au lieu de 45€ ne tiendra que quelques mois avant de vous lâcher. Exception faite, hein, bien sûr, des trucs hyper basiques. Bien évidemment, je vais pas vous dire d'acheter un câble Apple ou Belkin ou Griffin quand il existe d'autres marques, même parfois meilleures, mais vous voyez l'idée. Hein. Arrêtez aussi d'acheter... Oui, pardon.
Et puis des fois même des produits asiatiques bas de gamme, ils sont peut-être certes robustes, mais ils vont te faire du genre c'est la pile qui est dans un format qui est pas vendu en Europe, tu
voilà,
vois. Et que du nom, bah t'es baisé quand t'as plus de pile, quoi.
C'est un autre exemple effectivement auquel j'avais pas pensé. Le truc incompatible parce que c'est prévu
c'est pas la
pour marcher temporairement avec le truc le moins cher du monde, etc. Mais c'est ce que j'appelle conçu avec le cul. Hein. C'est, globalement, ça rentre dans la grande catégorie.
C'est un truc de merde, quoi. Tu peux le dire.
C'est ça, c'est un truc de merde. Mais tu vois, il fallait que j'explique un petit peu de pourquoi c'est un truc de merde.
Oui, parce que c'est conçu avec le cul, c'est ça se
voilà,
tient.
C'est ça,
vous avez fait quoi.
C'est cul, putain de
FD.
Ah, FD.
Donc, arrêtez aussi d'acheter l'aspirateur premier prix pour pouvoir, pour le même prix au total, vous payer en plus une machine à panini premier prix aussi, que personne ne les utilise plus de 3 fois, c'est chiant à laver, ces putains de machines à panini, le fromage coule partout dans les interstices.
Tu sens le vécu,
comme c'est
gars.
Mal lavé,
non,
c'est
mais
chiant
pas
à voir. On les laisse traîner dans le placard
c'est
et on les
jette
lors
très
du prochain déménagement. Comment ça, c'est faux? C'est la merde
des
machines à panini.
Mais non, avec les copes messieurs, c'est trop bien.
J'en ai eu une dans ma vie, de la machine à panini.
J'ai utilisé 3 fois et je l'ai jetée. D'accord?
Hein, oh là là. On avait bien dit qu'on parlerait de la bouffe, hein, de ces 4.
Ah bah oui, c'est clair.
Bref. Dans la même veine, parce que c'était pas cher, n'est jamais une raison potable d'achat. Je dis ça, entre autres, à notre public féminin, mais pas que. Je vais me recevoir des mails d'insultes, ça va être génial. C'est donc dire « j'ai acheté ça, que c'était pas cher », c'est juste une autre façon de dire « je suis un gros pigeon ». Arrêtez aussi de vous vanter d'avoir acheté un produit pas cher. Il n'y a aucun mérite. Vous n'avez pas niqué le système. Vous l'avez juste alimenté comme un gros putain de mouton. Vantez-vous éventuellement d'avoir trouvé le bon rapport qualité-prix. Ou alors, même encore mieux, le produit qui vous convient et qui vous conviendra longtemps. L'avantage de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons nous appuyer sur les avis des internautes ayant déjà acheté ce produit, même s'il existe évidemment de fausses reviews. Nous avons de toute façon les moyens de nous renseigner. Ce qui veut dire
et
que nous pouvons éviter quelques écueils.
Aussi, il y a un fault.
Il y a un fault. ce qui veut dire que nous pouvons éviter quelques écueils, nous ne sommes pas évidemment obnubilés par l'étiquette prix ou le bof, ça ira bien pour le prix. Mais encore une fois, je ne traite pas ici de la connerie humaine. L'autre avantage de notre époque, c'est que bizarrement, peu de personnes le connaissent, c'est que désormais, pour les particuliers uniquement, je précise, les produits que vous achetez en Union Européenne sont garantis 2 ans minimum par le constructeur. Ce qui veut dire que les assurances de 3 ans à 12 000€ de chez Carrefour, Darty, Conforama, Boulanger et même Apple ont un peu moins d'intérêt. J'espère que cela forcera doucement les constructeurs à augmenter la durée de vie minimale au lieu de juste augmenter le prix pour subvenir au coût des besoins, au coût des retours SAV supplémentaires. Parce que malheureusement, ça risque d'être ça. Et puis tout simplement essayer de réfléchir un peu avant d'acheter. En avez-vous juste envie ou vraiment besoin? Allez-vous l'utiliser régulièrement ou non? Vous êtes-vous renseigné un peu auprès d'autres clients sur Internet? Si l'appareil tombe un jour en panne, est-il réparable ou faut-il le jeter en entier? Et si possible, laissez passer la nuit. Elle porte souvent conseil et le produit que vous vouliez tant dans le magasin, ne vous paraît plus si essentiel maintenant qu'il faut refaire le trajet pour aller l'acheter. Même si c'est en ligne, la nuit porte parfois conseil. Elle peut parfois carrément vous faire oublier que vous aviez envie de ce produit. C'est pas énorme en termes d'investissement personnel. Mais il y a au moins un triple avantage à prendre ce recul. Déjà, vous dépenserez moins, ce qui est un avantage personnel. Vous polluerez moins. Et puis, vous indiquerez aussi aux industriels que ce qui vous plaît, c'est un bon rapport qualité-prix. Et non juste le prix uniquement. Parce que rappelez-vous que le seul moyen efficace de voter, c'est avec votre porte-monnaie.
Exactement. C'est très bien dit, ça. Bravo. J'ai maintenant aussi...
Mais sorti de son contexte, le meilleur moyen de voter, c'est avec son porte-monnaie. Ça ferait vachement peur à la politique.
Bah ça fait de la corruption, mais ça c'est déjà ce qu'on a en place. Oh pardon, excuse-moi. Non, vas-y, continue. Oui,
c'est pas faux.
C'est justement par là que je voulais aller. Oui.
Non, mais en un sens, le malheureusement, on va. Je dis pas que je crois pas en la politique. Puis c'est pas le sujet. On est dans TechCraft à la fin.
Non, digresse pas. Vas-y.
Mais le de toute façon, les gens vont produire ce que vous allez acheter. Parce que si vous l'achetez pas, ils vont arrêter de le produire. Donc, voter, c'est peut-être un grand mot, et puis ça amène justement ça amène sur la politique dès qu'on utilise ce mot. Mais si vous voulez avoir plus de produits d'une certaine façon, bah, achetez-les. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Et on va voir si, par exemple, les gens sont prêts grâce au public réduit que j'ai, mais ça fera un échantillon qui fera l'affaire. Il y a une machine à laver qui a été annoncée. Ouais. Qui s'appelle, je ne souviens plus le nom. Non, c'est pas son nom, hein, ça, je précise. Qui s'appelle l'Increvable.
Voilà, j'allais dire l'Increvable.
Donc, c'est une machine à laver, et j'adore ce principe, dont je vous parlerai tout à l'heure.
Le petit voilà. De malade, pour rien du tout.
Tu sens l'enculé de la semaine, parce que j'allais passer l'image, là, tu vois.
Pardon? Ah, fallait pas.
Non, mais je l'ai pas mise, du coup.
Non, mais j'en parlerai plus en détail, en fait, dans le coup de cœur de la semaine. Et comme ça me permettra
quoi
de...
Ah, d'accord.
Et oui, c'est prévu. C'est une machine à voyager dans la durée.
Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas l'image, en fait. C'est parce que je l'avais prévu.
C'est pour ça qu'il y a pas l'image.
Ah, voilà, je me disais, merde, je me suis chié dessus, mais en fait, non.
Non, t'inquiète, on en parlera tout à l'heure. Et en attendant, je vous laisse deviner si vous êtes prêt à acheter une machine à laver si elle dure longtemps. Et savoir si ce produit-là, quand je vous le présenterai, vous fera envie.
Moi, je peux dire un truc sur les machines à laver?
Oui.
J'ai toujours dans mon entourage, des gens, des connaissances qui ont toujours des machines à laver qui claquent, qui cassent, qui fuient, qui machin. Machine à laver,
je suis. C'est le calcaire dans les tuyaux.
Écoute, ma machine à laver.
Ça fait toujours plus longtemps avec Calgon.
Voilà, bravo, très belle victime de publicité. Non, j'ai ma machine à laver. Depuis 8 ans, je ne lui ai jamais mis un coup de Calgon ou n'importe quel autre détartrant. Je ne l'ai jamais nettoyé. J'ai jamais nettoyé son filtre. La seule fois où je l'ai ouvert, il n'y avait rien dedans.
T'as retrouvé 20 euros?
Non, même pas. Mais
aux pièces de 10 centimes.
Elle marche toujours. Et comme au premier jour, bon, elle vibre un peu.
Mais moi, je sais pas, j'ai jamais eu de problème aussi. Mais moi, j'ai toujours eu des électromécaniques parce que j'ai pas confiance dans l'électronique. Étant mécanicien.
Non, mais par contre, tu vois, justement, parce que tu parles d'obsolescence programmée d'électronique, il y a quelques semaines, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont pu voir que j'ai 2-3 petits éléments qui ont claqué chez moi de manière subtile et désagréable. Pour un truc un peu moins subtil d'ailleurs. Mais un des trucs subtils, c'était un écran qui subitement ne s'est plus allumé. Alors, si j'étais un connard.
Condensateur?
Oui, voilà. Si j'étais un connard quelconque, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, je le change. Ce que je me suis dit au début. Mais du coup, comme il fallait que j'en change deux, du coup, pour avoir les deux mêmes, j'ai dit, j'ai peut-être demandé à un collègue que je remercie encore, s'il peut jeter un œil. Tu peux manger les chips après, Phil, ou ça te dérange?
Ah, pardon.
Non,
j'ai coupé mon micro.
C'est parce que tu vas nous donner faim, force.
C'est pas des chips, en fait. C'est pas des chips, c'est mes clopes.
D'accord. Faut pas les manger, faut les fumer, les clopes.
Ah, putain, c'était ça le goût.
Oui, c'est ça le goût dégueulasse. Non, mais voilà. Et en fait, du coup, un collègue m'a changé en disant, c'était juste un condo qui avait soufflé, et puis voilà. Et, ça a coûté rien. Rien, parce qu'on l'a récupéré ailleurs, on l'a mis dedans, c'était fini. Donc, au lieu d'avoir jeté un écran et d'en avoir racheté de nouveau, il a changé un petit truc qui faisait 1 cm/2. Et voilà, j'ai économisé 300-400 euros de... Enfin,
facilement, ouais.
Voilà, sans compter la destruction de la planète qui est autour, la production de carbone, et ainsi de suite, tu vois.
Et le recyclage aussi de tes vieux écrans.
C'est ça. Donc,
mais ça me rappelle aussi une histoire qu'il y avait eu avec les Xbox 360 à l'époque aussi.
Ah, avec le Red Dot of the Death.
Ouais, c'est ça, où en fait, je crois que c'était juste un petit élément aussi qui surchauffait en fait et qui grillait. Et mais c'était toujours à peu près autant de temps après l'achat. C'était toujours au bout de 1 ou 2 ans, je crois d'ailleurs.
C'était, il me semble, très que c'était un problème de ventilation qui faisait que le composant, il était toujours toujours très chaud et au final ça l'usait plus vite que la normale, quoi.
C'est ça. Mais en fait c'était juste un petit élément tout bête, mais qui fait qui niquait toute la Xbox.
Mais et, du coup la question, de bruit. La question c'est surtout, est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ou est-ce que c'est une mauvaise conception à la base? C'est parce que du coup ça change tout.
Tout le monde criait à l'obsolescence programmée parce que justement ça arrivait toujours à peu près au même moment, etc. Après l'achat. Donc ça par contre je pourrais pas dire. Je saurais pas dire si c'est une erreur ou pas.
C'est là où quand c'est l'Europe qui veut ou la France qui veut s'attaquer à l'obsolescence programmée ou
c'est alors la garantie qui a été étendue à 2 ans, c'est un truc européen.
Oui.
Par contre, sinon c'est les sénateurs, donc c'est français ça. Par contre,
d'accord,
la loi.
Parce que c'est une question que je te posais. Ah pardon, excuse-moi, vas-y.
C'est là que la frontière est très compliquée parce que on reprend l'exemple de la Xbox. Qui te dit que c'est pas les ingénieurs, je sais pas qui. C'est Microsoft, c'est quand même une grosse boîte, peut te dire. Ils peuvent l'avoir fait exprès, mais qui te dit que ça peut arriver aussi qu'ils aient fait une petite erreur, une petite connerie et que je sais pas. Tu peux penser à tous les cas du monde, on a forcément un sur le volume de produits que tu vendras. Tu peux pas parer à tous les problèmes. Et qui te dit que quand imagine, tu sais pas, t'as ton micro-ondes qui tombe en panne et tu vas porter plainte ou tu vas gueuler, enfin bref, qui te dit comment t'arriveras à déterminer que c'est les composants, l'électronique, l'électricité, ça s'use, c'est physique, enfin c'est comme ça quoi, comme un condensateur qui gonfle, ça se trouve il a gonflé, mais le mec il avait pas forcément prévu qu'il allait gonfler, mais je sais pas, il y avait une légère défaillance, il était un peu moins usé que les autres.
Oui, mais dans ce cas-là, ça rentre quand même dans la responsabilité constructeur. Un composant, certes, il est censé durer plus que la garantie de vie de ton appareil complet.
Alors, concernant les condensateurs, si vous voulez, je peux vous expliquer ce qui fait en sorte qu'ils pètent.
Non.
Et pourquoi?
Pourquoi
j'ai dit que sur ton écran, c'était un problème de condensateur?
Mais c'est toujours les condensateurs. C'est la lime parce qu'ils sont sous-dimensionnés.
Pourquoi c'est toujours les condensateurs et quel est le problème principal?
Parce qu'ils sont sous-dimensionnés pour une raison de taille et qui chauffent et qui s'assèchent et qui pètent.
C'est parce qu'en fait, la température, c'est vachement important pour les condensateurs. C'est ce qui réduit leur durée de vie. Et le problème, c'est que en général, ce qui a besoin des condensateurs et en général, ce qui est producteur de chaleur. Et si tu mets le radiateur contre le condensateur, le radiateur de la pièce qui permet de dissiper la chaleur contre le condensateur, tu vas le niquer à une vitesse pas possible. Donc le problème, c'est que là, on est dans un cas typique où le concepteur doit faire justement un compromis entre des contraintes techniques et la durée de vie. Donc là, c'était le cadre que je donnais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que les condensateurs, c'est toujours un problème dans les écrans parce que ça doit être placé très proche de composants qui chauffent.
Bon, là, dans le cas-là,
et après, ils pourraient mettre des gros, du coup. Mais après, ça coûterait plus cher.
Mais voilà, c'est ça. Selon mon collègue qui du métier, me disait, il fallait juste qu'il soit un petit peu plus haut dimensionné. Il n'aurait jamais eu de souci. Là, il était un peu juste.
Et oui, mais après, dans la guerre des prix, certes, ça coûterait peut-être 50 euros de plus pour une télé. Mais est-ce que du coup, tu vas acheter la télé à 50 euros de plus
Mais il faut se rendre compte
que ça dépendra de ton utilisation.
Non, attends. Faut juste se rendre compte que même si ça coûte 1 centime de plus par télé, pour toi c'est rien. Mais pour le constructeur, c'est des millions d'euros de sortie.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça. C'est
et surtout, c'est
un manque à gagner énorme.
En plus.
Donc, bien sûr, forcément.
Donc voilà, donc je sais pas si on est prêt à acheter des trucs juste parce que le constructeur t'assurera que ça durera 10 ans ou 50 ans. Ou...
Bah ça dépend pourquoi.
Le problème,
c'est qu'on
n'aura jamais la preuve, quoi. On n'aura jamais.
Moi, je pense que ça dépend vachement de la gamme, quand même. Oui, enfin de la catégorie du produit, parce qu'il y a des produits où quand tu concernes un peu la sécurité ou quoi, oui, t'es carrément prêt tout de suite à mettre beaucoup plus de sous si on te promet que ça va marcher très longtemps, que ça.
Non, mais ça dépend du produit.
Fiable.
Bah l'exemple, c'est les rovers martiens.
Oui,
à chaque fois ils disent ça doit durer 2 ans et puis finalement ils roulent encore.
Oui, c'est ça. C'est hallucinant, mais non, mais tout est question de produit. Je veux dire, on te dit ton smartphone, on te le vend, oui, il va marcher 25 ans. On vous garantit 25 ans et à côté on te vend un smartphone moins cher, on te dit il va tenir 10 ans, c'est sûr, on vous le garantit, on vous le change s'il claque au bout de 9 ans et demi. Et encore à côté, t'en as encore un moins cher, il te dit au bout de 2 ans, on vous le rembourse. Tu prends lequel? Tu prends celui au bout de 2 ans, parce que tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tu vas le changer parce que...
Ouais, mais c'est ça, mais là, après, c'est les produits technologiques.
Mais pas laisser terminer, c'est super sympa. Et par contre, ta voiture, si on te dit vous en avez une moitié prix, mais elle tiendra 2 ans, et on vous dit il y en a une qui est un peu plus chère, mais qui tiendra 20 ans, tu prendras celle qui a 20 ans. Tu vois, ça dépend du produit. Et encore. Vraiment.
Et encore, justement, là où les Japonais ont fait très fort dans les années 80 et 90, et qu'ils faisaient des voitures moins chères que la concurrence, et beaucoup plus fiables. Elles étaient conçues pour durer. Et d'ailleurs, si tu regardes les Toyota, les Honda elles ont 400, 500, 600 000 bornes, et elles tournent toujours.
C'est vrai.
Elles sont complètement rouillées, mais elles tournent toujours.
Bon, dans ce cas-là, on peut dire pareil des Mercedes, et ainsi de suite, des anciennes gammes. Enfin, bref, on va pas parler de mécanique. Est-ce que tout le monde a répondu un petit peu dans le sujet? Sinon, on va de nouveau terminer à des heures pas possibles et c'est pas le but de durer trop. On regarde, sinon, on finit n'écoutera même pas la semaine prochaine.
Moi, pour une fois, j'ai fini ce que j'avais à
dire. C'est vrai.
C'est étonnant.
Quelqu'un a quelque chose à rajouter dessus? Surtout que tu reviendras là-dessus sur la machine à laver un peu plus tard. Donc,
Je reviendrai sur la machine à laver tout à l'heure.
Voilà.
Bah, juste un dernier conseil, franchement, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à comparer, à regarder les forums, etc. Maintenant, comme il disait,
renseignez-vous.
On a énormément d'infos sur la plupart des produits qui existent sur le marché, que ce soit dans la technologie, dans l'automobile, dans n'importe quoi. Et donc, on pourra toujours comparer, on pourra toujours avoir les avis des utilisateurs, et on pourra toujours voir exactement qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Et sur ce, je m'arrête.
Bien. Yeah. Bah, c'est super.